Ouais, tu dois recommencer depuis le début parce que ça a tout effacé.
Est-ce que là on recommence vu qu'on n'est pas pour qu'on n'ait pas le. Est-ce que tu dois recommencer?
Non, on y va, c'est
D'accord,
parti.
on y va. C'est parti. Alors donc voici un nouveau podcast Perdu Zap. Et non, vous ne rêvez pas, encore un épisode, le troisième de l'année 2010 ou 2012, on ne sait plus exactement. Donc un podcast Perdu Zap qui devient plus régulier que les vraies critiques de séries TV. Mais c'est pas grave, on est comme ça. On a notre propre esprit et on aime Revenge. Avec nous aujourd'hui, Tigrou
Bonjour.
et Gégé
Bonjour.
et moi-même, Iris.
Ah.
La meilleure, le meilleur pour la fin. On va commencer, on va entrer dans le vif du sujet directement
Ouais,
en
clairement, on fait pas de
parlant.
sommaire. Le sommaire, on le fera à la suite
Voilà, pour le
de...
sommaire, c'est à la fin.
C'est à la fin. Ben, en fait, non, les gens, ils verront le sommaire
Sur le
parce que
site
Jules, il
internet?
va nous écouter, puis après, il va te dire de quoi on a parlé.
Mais Jules nous écoute vraiment?
Je suis bête.
Il fait le
Oh,
timing.
j'ai la pression tout à
C'est un peu pour ça qu'on fait les podcasts, et
C'est pour
pour
Jules.
un peu avoir l'impression d'être en communication avec Jules, se rapprocher de lui.
Ah oui, tout à fait pour qu'on se rapproche, Jules. On commence avec Revenge.
Ouais, Revenge, qui. Je crois qu'on avait parlé. C'est bien ce podcast où on se rappelle même pas de ce qu'on avait dit les fois précédentes. Mais comme on avait fait les podcasts au début du mois de janvier, il a dû s'écouler 5 ou 6 épisodes depuis. Qui a soit Revenge comme la meilleure série de l'année,
Tout
en
à
gros.
fait.
Ah, tout à fait. J'ai trouvé ben, l'épisode, le 16e épisode, l'épisode de reprise après la, on va dire, de lancement de la nouvelle partie, de la deuxième partie de la saison.
Ouais, c'est ça. Ce qu'a accompli
Voilà.
Revenge pendant cette période, c'est d'arriver à boucler l'intrigue qu'ils avaient lancée avec le pilote qui commençait par une scène de mort d'un personnage. Et donc ils sont arrivés à cette scène et puis on a vu un nouvel épisode à la suite de celui-là, de cet épisode pivot qui va lancer la série vers de nouveaux horizons narratifs.
Avec une magnifique scène en noir et blanc dans le métro avec un SDF qui joue
Ça, c'est Iris qui a préparé des blagues pré-podcast et qui
violon.
veut
Oui,
les
j'ai
mettre, c'est la
préparé des blagues
référence
que
à
je vais
lui.
insérer.
Donc
Vous
j'avais peur de pas avoir vu
remarquerez ces blagues
l'animé
parce
que...
qu'en général, elles seront suivies d'un silence embarrassé.
Ouais.
Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on a parlé de Revenge, on trouvait tout ça super, mais en même temps, on se disait, bon, ben, c'est une série qui a été calculée pour durer 13 épisodes. Visiblement, ils ont étendu un peu leur intrigue sur 15 épisodes. Est-ce qu'ils sont capables, au-delà de ça, de continuer? Parce que c'est vrai que le pilote semblait donner enfin, leur imposer une direction narrative qui n'allait pas forcément leur permettre de prolonger leur série éternellement.
C'était comme Desperate Housewives, en un sens, avec le côté une intrigue à boucler.
Oui, un petit peu, effectivement, avec un mystère qui devait se boucler et on ne
Ouais.
savait pas trop comment ils rebondiraient après. Bah, faut reconnaître que ça fonctionne plutôt bien. Ils ont assez bien bouclé enfin, les révélations sur les pistes lancées dans le pilote étaient assez réussies. Et le dernier épisode montre qu'ils sont quand même capables de rebondir dans des directions intéressantes. Et c'est toujours aussi jouissif, surtout, parce que. Les personnages, enfin, ils jouent assez peu sur les effets de surprise finalement, je trouve. Je sais
C'est
pas ce
ça
que
qui
tu
est
en
bien, c'est
penses.
qu'ils comptent pas, faire comme toutes les séries mystérieuses qui ont été lancées dans la veine de Desperate Housewives, c'est-à-dire que ils veulent pas captiver leur audience en se disant ouh là là, il va y avoir une révélation énorme un jour, et en attendant, on délaye, on délaye, on délaye. Là, on aurait pu croire dans l'épisode pivot que la série allait prendre comme nouvelle piste le fait bah, justement de s'interroger, de savoir qui avait tué
Tyler.
Tyler, et que ça allait s'étirer sur la fin de la saison, et qu'à la fin de la saison, on apprendrait qui était le coupable, et que, en gros, dans les épisodes qui allaient suivre, chacun aurait 50 000 raisons de l'avoir tué. Enfin,
Il n'y
or
a pas
là.
cette ambiance de paranoïa qu'on aurait pu attendre, qui aurait été complètement, qui aurait plombé la série.
Et puis
Là,
surtout,
on a tout.
clairement, on nous dit ce qui s'est passé sur la plage la veille. Peu importe, alors effectivement, le personnage du japonais, c'est un peu
Ça, je
le
trouve
gars
ça
qu'on sort.
ridicule.
Bah, en gros, ce qui est plutôt pas mal, ça fait un peu Deus ex machina.
Ah oui.
C'est le gars qu'on sort quand narrativement ça devient un peu compliqué. Et en même temps, c'est plutôt bien fait. Et les scénaristes nous montrent que, en gros, ça, ça n'avait pas d'importance. C'est juste le point de départ à de nouveaux types de relations entre tous les personnages, et que ce qui va compter, c'est vraiment la façon dont les gens vont interagir, et pas un pseudo-secret ou un pseudo-mystère à la con, dont la révélation décevrait de toute façon les trois quarts de l'audience.
Mais le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est vraiment le Deus Ex Machina, quoi. Ça faisait très... je sais pas, le côté ressortons le maître spirituel de Machine...
Son existence,
c'est pas Karate Kid.
Ouais, mais son existence même, quand il a débarqué dans la série où on voit la blonde là, qui s'entraîne avec elle, oulala.
C'est assez assumé quand même. Et puis, moi, je m'interroge quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu plus compliquées sur ce personnage, alors qui ensuite est, lui, très caricatural et à la limite de la blague du vieux maître japonais, parce qu'il a l'air d'avoir des relations avec, plus comment s'appelle le blond, et avec son père, qui, à mon avis, on va avoir des révélations sur son père bientôt dans la série. Donc, je pense qu'il se réserve une ou deux révélations, et comme celle sur l'identité de sa sœur, qui finalement aurait dû être assez prévisible, et qu'on n'avait pas, enfin que personnellement j'avais pas tant vu venir que ça, et qui était plutôt une bonne surprise.
Et ce qui est bien, c'est qu'au bout de 15 épisodes, on peut commencer à faire confiance aux scénaristes et se dire que bon bah voilà, ils arriveront quand même à se dépatouiller de ce personnage-là, comme ils ont réussi à se dépatouiller d'Amanda ou de ce qui s'était passé au début, enfin de toutes les intrigues qu'ils avaient bloquées où il fallait arriver d'un point A à un point B bien précis. Et parce que clairement, narrativement, quand même, la façon dont ils ont réussi à faire converger toutes les intrigues qu'ils avaient développées sur 13-15 épisodes pour arriver à la scène de départ,
c'était quand même
un chouette tour de force.
Mais le problème, c'est que j'ai peur que justement, on nous ressorte trop de Deus Ex Machina, encore et toujours, qu'il y ait dans cette deuxième partie de saison encore un truc, une grosse ficelle du type Maître Zen.
Ouais, mais globalement, c'est pas important. Effectivement, c'est ce qui va permettre de relancer les dynamiques. Mais ce qui est vraiment chouette dans cet épisode-là, c'est pas la révélation de la fin. Au final, on s'en fout. Même si on n'est pas dans le truc de Lost, c'est-à-dire ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas les réponses aux questions. Revenge pose pas des grosses questions en disant vous allez avoir des réponses et en même temps, les réponses, c'est pas si important que ça. Là, en gros, ce qui comptait dans cet épisode, c'est de voir Emily bien emmerdée par ce qui se passe, parce qu'en gros, si l'enquête se poursuit, ils vont bien finir par se rendre compte de qui elle est. Les Grayson, qui eux non plus n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un procès, à ce que l'enquête... Et comment est-ce que ça crée de nouvelles alliances? Enfin, c'est vraiment le côté soap qui fonctionne à mort et qui fonctionne vraiment, vraiment bien.
Et je trouve aussi que c'est une série qui, plus que sur les surprises, se repose pas mal sur le suspense. Et l'épisode pivot, justement, dont on parlait, effectivement, le fait que Tyler soit la vraie victime, c'est pas du tout une surprise. Enfin, au moment même où ils ont introduit le personnage, on pouvait se douter que peut-être ce serait la solution au problème qui s'était posé au départ. Mais moi, jusqu'à la fin de l'épisode, je me suis demandé est-ce que ce sera lui ou est-ce que ce sera l'autre. Et la série arrive quand même assez bien à introduire du suspense et à nous faire douter assez régulièrement de ce qui va se passer. Et même si j'étais pas surpris, je suis pas tombé de ma chaise quand on a découvert que le fiancé d'Emily n'était pas mort, bah jusqu'à la dernière seconde je me suis dit ils sont capables de l'avoir tué, et j'avais un doute, et ça c'est plutôt rare à la télé, je trouve.
Moi j'avais pas spécialement de doute, mais je me demandais vraiment comment est-ce qu'on allait y arriver.
Et c'est ça, à mon avis, c'est justement l'intérêt, c'est de comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir.
Comment est-ce qu'ils s'en sortent. Et ouais, c'est pas un out du nid, c'est pas out du nid.
Exactement. Et alors, je sais pas combien de temps ça va pouvoir durer, toute cette histoire de revenge, mais jusqu'ici, tout va bien. Quoi.
C'est je ça pense que ça va... Pas du tout fou en une deuxième saison. Enfin, si deuxième saison il y a, je vois pas comment il pourrait encore rebondir. Comment est-ce qu'il les ferait encore rester dans les Hamptons pour l'hiver
Bon, ils reviendront l'été suivant, à mon avis.
Ils vont tous à Aspen.
Peut-être. Mais les relations entre les personnages, à mon avis, peuvent les faire traîner un petit peu. Après, il faudra qu'ils renouent. Enfin, c'est vrai que l'idée de la revanche, de la vengeance du personnage principal, il y a un moment, il va falloir soit qu'elle y arrive, soit qu'elle renonce et qu'il reconstruit un tout petit peu les dynamiques entre elle et sa belle famille, mais à mon avis
moi ça me gêne pas du tout maintenant, désormais l'anticipation de comment est-ce que la série pourrait évoluer, là je trouve que on est vraiment dans ce qu'on aime avec les séries télé, c'est-à-dire qu'on a envie de voir l'épisode suivant avec grande confiance parce que moi, enfin, en ce moment, j'ai un peu des soucis avec les séries télé. C'est-à-dire que on ne sait jamais si si ce qu'on va voir va tenir la route par rapport à ce qu'il y a eu avant et si d'un seul coup, ça va devenir catastrophique. Je trouve qu'il y a quand même en ce moment beaucoup de un manque de régularité, de qualité dans les séries. Et Revenge, c'est l'une des rares en laquelle j'ai vraiment confiance et je me dis bon bah voilà maintenant c'est sûr on va s'éclater avec Emily.
C'est parce que Revenge, je pense qu'on a tous, enfin que maintenant on connaît tous et on a tous accepté ses gros défauts, genre le jeu des acteurs, le côté gros soap. Enfin, c'est des défauts qui peuvent en même temps être des qualités selon la manière dont tu le perçois.
Mais bah, le père dans Revenge, il joue vachement bien quand il explique à son fils avant de se marier que en gros l'amour ça dure jamais. Ah ouais, c'est un peu cliché tout ça. Ah, mais oui, en même temps, cette scène-là elle fonctionnait super bien. Enfin moi, pour moi, elle a vachement bien marché. Alors qu'effectivement, moi j'étais vachement gêné au début sur le jeu des acteurs. Mais je pense que je sais pas, tout le monde a l'air vachement plus à l'aise. Il faut que j'arrête de dire vachement, je sais. Mais tout le monde est plus à l'aise, les acteurs, les scénaristes. Ils savent où ils vont et j'ai l'impression que bah voilà, enfin c'est une petite réussite quoi, mais c'est vraiment chouette.
Et puis les acteurs s'amusent aussi, je pense, et ça se ressent. Ils ont finalement des personnages qui sont plutôt plaisants à jouer parce qu'ils sont tous un peu excessifs. Et même les personnages qui étaient assez faiblards au début, comme la meilleure amie ou autre, ils ont rajouté un peu de complexité, un côté un peu vicieux qui permet d'avoir finalement assez peu de boulets. Et moi, je trouve aussi que l'actrice qui joue celle qui s'est révélée être la sœur de l'héroïne, elle est plutôt, pas mal dans un rôle qui pourrait être assez pourri.
C'est une ado supportable, ce qui est une petite réussite en soi, comme la série.
Et il y a toujours des maisons en images de synthèse, ce qui, pour moi, fait vraiment partie de l'identité visuelle de la série. J'aime bien avoir ces plans sur les maisons.
Il y a des images de synthèse ?
Ah, moi, je ne sais même pas.
J'avais même pas remarqué.
Le générique, il est en images de synthèse,
mais
pas vraiment la mer.
Les maisons sont en images de synthèse.
Oui, le générique, évidemment. Comment tu veux dire que ce 8 géant ne sort pas réellement de la mer ? Oh mon dieu!
Ah bah je ferai attention moi aux maisons.
Ouais, moi aussi, maintenant tu vas me pourrir la série en fait parce que.
C'est oui, dire que... attention par exemple quand il y a des plans qui sont tournés qui devraient coûter hyper cher à faire, où tu vois la caméra qui est
d'une maison et qui arrive dans l'œil de Madeleine Stowe.
Ouais. Je pense que c'est une image de synthèse en partie. Mais je peux me tromper.
Une réalisation de génie.
Mais c'est mieux fait que dans Ringer où on avait la scène du bateau en image de synthèse qui était. Vraiment ridicule.
Même pas regardé Ringer.
Oh là, quand je pense que moi j'ai continué Ringer.
Et ouais, tu t'es trompé de soap cette année. Mais tu as corrigé ton erreur.
Ah, clairement. Allez, on va passer à Cougar Town.
Bah oui, le encore retour, une série le retour qui ne gère plus Cougar son Town. Titre. Pour faire une transition, tu vois, on aurait pu dire que Revenge, si ça a une saison 2, il faudra qu'il trouve un nouveau titre. Cougar Town. D'accord, encore un truc que j'ai raté, merci.
Non, c'est bien, j'étais juste en train de réfléchir. Moi, par contre, ça me gave, leur jeu, là. Avec la... l'image, comme il n'y a pas de générique, là, l'image qui annonce le titre, ça fait dater, ça fait... Alors oui, en plus, ils font des références aux Simpsons en disant « Ah, ce n'est pas le tableau des Simpsons, etc. » C'était marrant quand Chuck Lorre avait fait ça en fin de... Et que les Simpsons ont fait ça.
Oula, on dit pas que quelque chose avec Chuck Lorre est marrant, s'il te plaît. Il y a des limites à ce qu'on peut dire dans un podcast. Et Chuck Lorre est marrant. Mais...
Bon, aussi. Non. Il a fait des trucs un peu drôles. Moi, des fois, j'ai regardé des épisodes de Two and a Half Men et j'ai ri beaucoup. Et voilà, ce qui fait que tout ce que je vais dire sur Cougar Town maintenant va être teinté de ses goûts particuliers en comédie.
Voilà, maintenant c'est posé, on sait que tu as mauvais goût.
Ouais, j'ai un... Enfin...
Donc, Cougar Town, le dernier épisode...
En gros, il y a eu 3 épisodes de diffusés, les audiences sont désastreuses, donc c'est la dernière fournée d'épisodes, est quasiment sûr.
Ah non.
Ah bah si,
je crois qu'ils sont... Ah non, moi je veux pas qu'ils annulent Cougar Town.
Alors tous les acteurs sont sur des nouveaux pilotes, si Cougar Town se fait annuler, mais là les audiences elles sont catastrophiques.
Ah, et heureusement qu'ils se marient alors.
Du coup, ça me fait une peur en moins parce que j'avais très peur de comment ils allaient gérer quand ils seraient mariés.
Bah, ils gèrent déjà très bien.
Oui, bon,
de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, puisqu'ils sont en couple depuis combien de temps maintenant?
Bah, fin de la première saison.
Ouais, mais j'avais peur qu'ils les fassent rompre.
Mais non, mais ils ont...
Avec le dernier épisode, vu comme c'est quoi son nom, Jules. Enfin, comme Courtney Cox délaisse complètement...
Grayson.
Voilà, vu comme elle le délaisse complètement, j'avais peur qu'ils les fassent rompre avant le mariage.
Ouais, c'est marrant parce que moi, vraiment, le premier épisode où il la demande en mariage, alors que ça vient de nulle part, qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'on ne s'y attend pas, je me suis vraiment dit, bon, bah, c'est bon, ils nous disent que le couple est installé et que ce n'est pas la peine de faire de faux suspense sur est-ce qu'ils vont rester ensemble ou pas. Donc, j'avais pas vraiment cette peur. Mais effectivement, le dernier épisode était un peu étrange. Mais je pense que c'est juste qu'ils ont mal géré le ton et qu'en fait, leur intrigue était censée être marrante et qu'elle était...
Il faudra vérifier, mais moi j'ai vu en regardant l'épisode que c'était écrit et dirigé par Michael Mac quelque chose, qui était un type là, de Mad TV, une espèce de grand bonhomme, tout ça. Je sais pas si c'est pas une guest star scénariste ou.
Celui qui jouait Stuart ?
Oui, c'est ça.
Sérieux ?
Ouais, je crois que c'est ça. Alors après, peut-être que je me suis trompé, mais parce qu'effectivement, moi qui aime pas particulièrement Cougar Town, j'avais été. Agréablement surpris par l'épisode précédent où il y avait un chouette rythme, où effectivement, je sais pas, tout fonctionnait bien, et j'ai enchaîné sur celui-là où la façon de filmer les plans très rapprochés sur les visages, les enchaînements un peu pourris avec des petites vagues entre les plans, je trouvais qu'il y avait un truc de ton qui était vraiment différent par rapport à d'habitude, des grosses erreurs. Il y a eu des grosses erreurs de raccord à un moment donné. Busy Phillips, elle a du rouge à lèvres, puis elle en a plus, puis elle en a à nouveau. Enfin, c'était vraiment un épisode particulier d'un point de vue de la réalisation, de chose qu'on voit très rarement dans les séries, une rupture de ton comme ça d'un épisode à l'autre.
Et cette scène en noir et blanc.
Mais en tout cas, moi, je serais bien triste si la série est annulée. Parce que c'est la série, ou en tout cas la sitcom, où j'ai le plus de plaisir à retrouver les personnages chaque semaine. Ah, ils me font bien rire, mais même dans les épisodes un peu plus faiblards comme celui-ci, où je rigole un peu moins, bah, je suis quand même content de passer du temps avec eux. Ce qui n'était pas gagné à l'avance, parce que entre la femme de Bill Lawrence, qui est l'actrice à la base assez insupportable, Courtney Cox, qui n'était quand même pas l'actrice qu'on préférait dans Friends. Et un casting assez loser, ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment chouette et attachant et très drôle.
Ouais. Oui, mais je sais que j'attendais beaucoup, beaucoup le retour. J'ai adoré l'épisode de reprise avec cette demande de mariage qui m'a beaucoup touchée, mais c'est pas du tout la série que j'attends le plus. Enfin, la sitcom que j'aime le plus en ce moment et dont je suis le plus attachée. Au personnage, ça c'est plutôt Happy Endings.
Alors tu es attaché au personnage de Happy Endings parce que j'aimais beaucoup, je continue à bien rigoler devant, mais les personnages, je peux pas dire que je les trouvais attachants au début, mais là c'est devenu tous des caricatures.
Enfin, moi c'est
j'ai l'impression qu'ils corrigent un peu le tir depuis 2-3 épisodes en revenant à nouveau des intrigues. Un tout petit peu plus. Qui le rendent un petit peu plus sympathique, mais.
Moi, c'est totalement l'inverse. J'avais écrit une critique totalement assassine du premier épisode, où je disais que c'était des personnages caricaturaux, etc. Mais je trouve que, sur cette deuxième saison, je sais que chaque épisode, c'est une des comédies que vraiment je regarde. C'est-à-dire que je laisse pas juste passer l'épisode, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie.
Il faut dire, si t'es pas concentré, tu comprends rien dans Happy Endings, parce que ça va tellement vite.
Ouais. Non, mais oui, je trouve les personnages très attachants. Bon, je suis une des seules, mais j'adore Max. Ouais, voilà, c'est mon personnage préféré, Max.
Et alors, même si c'est la base de la comédie, hein, les personnages caricaturaux, stéréotypés et tout, mais lui, son côté, moi, ce qui me gave... c'est pas outre son physique, parce que...
Il est beau.
Ouais, ça c'est un peu bizarre. Ouais, elle m'a fait tout à l'heure tout un quart d'heure sur le physique.
C'est peut-être
à cause des filles comme elle qui le mettent torse nu à chaque épisode, ça a ramené de l'audience, mais moi...
Non, après c'est tout à l'honneur d'Happy Endings d'avoir des personnages qui n'ont pas un physique parfait et tout ça.
Enfin, d'avoir un personnage qui n'a pas un physique parfait au lieu de cinq personnages canons, quoi.
Moi, alors déjà, Max, je le trouve tout à fait canon.
Mais il n'est absolument pas présenté comme canon dans la série.
Son petit copain, c'est un duo.
Oui, mais ça, c'est parce que quand t'es le personnage principal, même si t'es moche, tu te tapes des bombasses. Mais ça, c'est.
Comme dans la fête à la maison, vous vous rappelez, là, la gamine
j'avais
qui avait grandi.
Ans,
la sœur, de Kirk Cameron qui avait grandi, qui devenait une espèce de ton immonde. Bah, comme c'était un personnage principal, tous les mecs avec lesquels elle sortait. Avait le physique hollywoodien qui va bien.
Non, mais dans Happy Ending, c'est pas Max le plus moche de la bande. Je suis désolée, mais si on y va, d'accord, il a un physique qui est peut-être pas, qui rentre pas dans les canons, dans les critères hollywoodiens, comme vous les appelez, mais c'est pas lui le plus moche du groupe.
Mais en fait, le problème, c'est surtout que moi, je trouve que c'est un personnage. Au départ, ils en faisaient un gay un petit peu décalé et c'était marrant. Bah, mais ensuite, ils en ont juste fait un personnage bizarre. Et ce mec, il est juste bizarre, quoi. Enfin, il est complètement. Il est un peu sociopathe. L'épisode où il passe son épisode à grogner, où il n'a pas une ligne de dialogue et où il agit comme un ours.
Et pour le coup, là, point de vue de son physique, en gros, c'était. On va rire parce que c'est drôle de voir des gros.
Moi, j'ai pas ri parce qu'il était gros. C'est pas. Et désolé. Déjà, il n'est pas gros.
Non.
Non, il n'est pas gros, on va arrêter avec ça. Il est un peu enrobé, mais il n'est pas gros. Et je trouve pas que l'épisode de l'ours ait particulièrement joué sur son physique pour faire rire. Je pense que... Bon, l'épisode de l'ours, il m'a dérangé parce qu'il était... l'épisode de l'ours... D'accord.
C'est un gay gros un peu poilu et ça devient un ours, quoi. Enfin, c'est quand même
Ça aurait pu être fait avec même s'il était pas gay. Le seul problème, le seul truc qui m'a dérangé, c'est
je sais.
Non, mais le personnage, là, ça jouait pas clairement sur le fait qu'il soit gay. D'ailleurs, je trouve que Max n'est pas un gay caricatural.
Non. Ah mais si. Non, sa peur de l'engagement et tout ça, machin,
non,
habitude.
Non, mais ça, c'est chez les filles aussi.
Ah, super, bah oui, bah on est, voilà, tu devrais regarder Survivor One World, parce que c'est ça. Donc les filles et les gays fonctionnent exactement de la même façon, c'est-à-dire que...
Mais il y a plein d'hommes qui ont peur de l'engagement, il y a plein de femmes qui ont peur de l'engagement, ça c'est
non,
pas
mais
une caractéristique
côté, la caricature,
des gays.
Bon,
c'est
oui,
une
après, caractéristique de
notre
content,
génération,
quoi.
Enfin, de ma génération.
Ouais, mais... Pardon. J'aimais bien que tu nous inclues dans la même génération.
D'accord, non, les autres ils sont vieux. Mais non, je trouve que Max est au contraire pas du tout une caricature de gay et qu'il est pas du tout une caricature de quoi que ce soit.
Mais c'est pas une caricature de gay forcément, mais c'est un personnage. Moi au départ, je me disais, ah, c'est un gay pas comme on a l'habitude, c'est assez drôle. Et ensuite, c'est juste devenu un personnage qui était bizarre, quoi. Enfin, qui fait des trucs bizarres en permanence. Et il y a eu des épisodes à la suite où vraiment il était un peu dégueu.
À la limite de la débilité, il est un peu débile, quoi.
Oui, il est un peu débile, mais non, je le trouve pas con, je le trouve excentrique. Je le trouve vachement moins con que le blond.
Le blond, il a les cheveux sales, enfin crades, là, mais ce qui le rend moins beau qu'il ne devrait être. Mais le blond, non, moi, il me pose pas trop de soucis, il est plutôt drôle.
Et la meilleure personnage, c'est... Au départ, j'aurais dit que c'était Penny, mais finalement, c'est vraiment Kim Bauer qui me fait marrer à chaque épisode depuis qu'ils l'ont rendu débile. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à faire du personnage à part la rendre débile, et ça fonctionne vraiment bien. Et elle a les meilleures lignes de dialogue, en général.
Je trouve que ça devient de plus en plus facile, ce qu'ils font. C'est-à-dire que là, elle était un peu pas futée. Alors là, maintenant, enfin, quoi qu'il arrive, c'est vraiment la débile profonde du groupe qui n'a aucune culture, elle comprend aucune référence, jamais rien.
J'ai beaucoup aimé le passage sur c'est l'effet papillon. Tu fais un mauvais film et après ça pourrit toute une carrière.
Ouais, ça, non, mais si, il y a vraiment des choses drôles avec. Mais
il en faut peut-être un peu trop, je suis d'accord.
Il y a le côté hystéro, moi, qui quand même. M'exaspère un peu. Après, je reconnais que depuis quelques épisodes, c'est plutôt chouette.
La question, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer la fin de l'épisode du dernier épisode.
C'est-à-dire
où il se réveille,
tu te projettes
où
un
il
peu
réalise
trop
qu'en
après.
Fait c'est pas, il réalise qu'en fait c'est pas.
Tu devrais regarder un film vraiment, c'est pas, enfin, qui va t'inspirer beaucoup, avec Robin Williams qui joue un prof et il y a une grande leçon qui est profite du moment, du jour présent. Tu
ah,
vois.
Le cercle des poètes disparus.
C'est
je
ça.
L'ai vu, je l'ai pas
c'est
aimé.
Ça.
D'accord, donc je l'ai vu il y a 2 semaines.
Oh, et alors, ça, j'imagine que ça a beaucoup vieilli.
Alors, on va faire un petit passage film. Je trouve qu'il est totalement surestimé.
Non, mais ce film n'a jamais été estimé.
Je crois que lui, il n'a jamais été estimé.
Ah, mais si, tout le monde me cite. Ah, le
non,
cercle
mais
des
bah oui, bah quand moi j'avais, je sais pas, 14 ans, quand je l'ai vu, ou 15 ans, oh, c'était. C'était tellement émouvant.
Franchement, je pense que même si je l'avais vu à 14 ans...
Ouais, mais parce que t'es vachement plus évolué, et puis t'as Internet. Hein. Je te rappelle que nous, à l'époque, on n'avait pas Internet.
Est-ce que c'est une excuse pour la bêtise? Internet encourage la bêtise.
Et bref, profite des épisodes et te dis pas comment est-ce qu'ils vont gérer la suite.
Et puis, moi, je suis plutôt content qu'ils réintroduisent
un
fil conducteur... Ah, j'ai
pris un ton de prof, je suis désolé. Pardon.
C'est pas grave.
C'était horrible. Pardon.
Je suis plutôt content qu'il réintroduise un fil conducteur dans la série, parce que je trouve que c'est ce qui manquait un tout petit peu. Et à mon avis, la qualité des derniers épisodes, elle couche avec le mec.
Mais tu te rappelles pas, il y a toutes ces histoires autour des cocktails qui les font rêver.
Ah oui, ils couchent ensemble.
Ouais, ouais, ils couchent vraiment ensemble.
Mais ça fait juste un fil. À mon avis, ils vont pas. Parce que je pense qu'ils veulent aussi le faire coucher avec, comment ça s'appelle, Penny.
Mais ils ont pas dit que. De toute façon, ils ont pas dit que des fois. Ça leur arrivait de recoucher ensemble
Non. Ça, ils avaient juste dit qu'ils étaient en couple. Enfin, ils ont dit au cours de l'épisode qu'ils étaient en couple.
Mais qu'ils avaient
non,
un peu recouché ensemble.
Sérieux?
Je sais pas, j'avais cru entendre ça. Donc c'est pour ça, moi, quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, c'est une façon de vraiment conclure l'épisode sur un gag. Genre,
ce coup-ci, c'est pas
un rêve. Paf, ils
non,
ont couché
ils
ensemble et tout le monde rigole.
Appuyé. Ben, ce qui m'a gêné, c'est qu'il l'ait vraiment appuyé et donc que ça fasse...
Comment ça qu'il s'est vraiment appuyé?
Bah, on voit, c'est la dernière scène de l'épisode et on voit qu'elle se réveille. Oh mon dieu!
Ah, mais moi, ça m'a plutôt fait rire.
Ah, moi,
j'ai comme un gag.
J'ai
genre...
ri et je me suis
ah, non,
j'ai pas pensé
moi,
du tout
déjà,
que ça pouvait changer la dynamique
vu...
de quoi que ce soit.
J'ai déjà vu venir le prochain épisode où ils se prendront la tête pendant 20 minutes sur oh mon dieu, on a couché ensemble, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on se remette
mais,
ensemble?
Je pense vraiment pas qu'ils vont faire ça pour le coup, ça ressemble pas du tout à
ça
la série.
Ça vaudrait même le coup de regarder le résumé de ABC pour voir ce qui va se passer. Ou ça va être Penny à trouver l'homme de sa vie et résultat elle est hystérique comme d'habitude.
Non, je veux pas de spoiler, je préfère la surprise et l'attente l'attente dans la peur.
Ouais, mais est-ce que les théories sur ce qui peut arriver après, c'est pas une espèce de forme de spoiler?
Non, c'est de la discussion.
Ben
ouais,
ça
mais
dépend,
si
parce
jamais,
que, par exemple, si que... je t'expose mes théories sur Revenge, je pense que ça va être un spoiler par exemple. Après, voilà.
Non, non, ne les dis pas, parce que alors moi, je suis le spectateur, mais vraiment lambda de base, c'est-à-dire que je ne vois jamais rien arriver.
Ah, non, moi, je vois toujours tout arriver à des kilomètres. Je savais depuis le début que Bruce Willis était mort.
Bah, moi aussi, enfin, tout le monde savait.
Ah bah non, bah pas moi. Moi, ça a été... Ah bon.
Est-ce que t'as déjà vu Fight Club, GG?
Ouais. Je l'ai vu au cinéma, j'ai détesté, parce que...
Bon,
à la
on
fin,
va arrêter de parler
compris,
cinéma. T'as rien compris?
Ah, ce coup de « Ah non, c'est pas la réalité, Bidule, il n'existe pas et tout, c'est que dans sa tête. »
Mais surtout, c'est chiant quand au bout d'une heure trente au cinéma, on te fait « Ah, mais en fait, ce que t'as vu, ça t'as s'est vu. Jamais passé. »
Voilà, c'est clairement, c'est les épisodes « Et si » de Grey's Anatomy, c'est à la saison, le début de la saison 4 de Fringe et tout ça.
Je vais pas vous juger. Je vais pas vous juger à voix haute. Je le fais dans ma tête et dans mon cœur.
Mais... Non, mais David Fincher est un bon réalisateur, un bon réalisateur.
Un film sur deux.
Voilà, c'est ça.
Un film sur deux.
Seven, ouais. C'était bien. Fight Club, c'était nul.
Zodiac, c'était génial.
Zodiac,
c'était
très très
Network,
bon.
C'était génial.
C'est moins bon, Social Network.
Et Benjamin
Network.
Button,
c'est
une
moins bon.
Benjamin Button, c'est chié par terre quand même.
The Social Network, c'était moins bon.
C'est moins bon que Zodiac. Oui, Zodiac, c'est son chef d'œuvre.
Ah non, c'est The Social Network.
Non, The Social Network, c'est ça.
Ah, c'est vrai.
The Social Network, c'est une analyse
mais c'est,
magnifique
elle,
de ce qui se passe.
C'est la génération Facebook, c'est pour
non,
ça.
C'est... Non, non,
c'est...
non.
Je suis Mark Zuckerberg, c'est pour ça.
Non, mais c'est vrai, oui, c'est ouais. Comme The Artist, quoi. C'est vraiment des films super parce qu'ils ont eu des Oscars, quoi.
Mais je vais te balancer mon thé au visage.
Attention, il y a le, notre nouveau truc ouais. Qui enregistre. Qui... C'est ça qui donne ce son si particulier.
C'est une tablette.
Et Millennium, alors, ça t'a plu ou pas?
J'ai pas vu Millennium.
T'as pas vu Millennium qui fait un peu dans penser temps, à la Lisbeth Salander de David Fincher.
Tu sais que t'es pas la première personne à me dire ça, et étant donné que la seule chose que je sais, c'est qu'il y a une scène de sodomie particulièrement.
Est-ce que c'est pas
un
spoiler
un
pour
peur.
Les gens
qui n'ont pas lu Millennium, oh. Pas vu Millennium?
C'est pas bien du tout ça ce que tu viens de faire, tu viens de spoiler les gens.
Donc
par exemple, si
David
je te dis que dans The Wire, la saison 4...
Ah, ta gueule!
Bon, bref.
Never gonna let you down. C'est bon, vous avez fini avec les spoilers?
C'est bon.
Voilà.
Je sais plus où on en était du coup.
Alors, David Fincher, les Oscars...
Les Oscars, les trucs
ah, si, les gros qui jouent
les
ours.
Oui. Si on disait qu'il faut pas se projeter dans le futur d'une série et juste profiter des épisodes qu'elle a à offrir. Et c'est vrai.
Mais
que...
je peux pas parce que j'ai plus aucune confiance.
Non, mais c'est quand on a confiance, effectivement.
Voilà, moi je peux pas.
Et pourquoi t'as pas confiance dans les gens d'Happy
Endings? À cause des hommes, j'ai pas confiance à cause des hommes.
Non, mais tu nous dis qu'Happy Endings. Ah bah non, vous t'aimais pas au début.
Mais en plus, t'aimais. Ah oui, c'est parce que t'aimais pas au début, parce que moi au début j'aimais bien. Et le début de la série, c'est quand même basé sur la relation de la blonde et du blond. Donc qu'ils repartent là-dessus maintenant, ça me dérange pas. Moi je trouve que ça manque un tout petit peu de continuité, donc s'ils rajoutent un peu de continuité dans leur série.
Non, moi j'aime bien quand les comédies justement.
Le gros problème de continuité qu'il y a eu, c'est quand l'épisode avec... pardon, pas ça, l'épisode avec l'ours.
Ouais.
J'ai essayé de le dire avant quand on parlait de l'épisode avec l'ours.
Ils se sont trompés de sens, c'est
voilà.
Pas diffusé dans l'ordre.
Ça, j'ai vérifié, ça a été diffusé dans l'ordre, mais alors qu'ils nous disent qu'il est en hibernation depuis hyper longtemps, alors que l'épisode d'avant, on l'a vu être avec son copain.
Mais je pense que l'acteur devait pas être disponible.
Et que juste après, il y a de nouveau un truc avec son copain, j'ai trouvé ça du foutage de gueule. Enfin, c'était hors continuité.
Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que depuis Louis, est-ce que Louis C.K. nous a pas appris et expliqué que la continuité, c'est pas si important que ça? Surtout dans les sitcoms. Alors effectivement, qu'il y a un gros manque de continuité dans Six Feet Under, ce serait dommage.
Quand une sitcom ne se base pas sur une certaine continuité, il n'y a pas de problème. Mais à part Louis, je vois très peu de sitcoms qui sont clairement hors de toute continuité.
Moi, je trouve
clairement, les sites, Happy Endings, les gens enchaînent les mecs, les filles, tout ça. C'est quand même relativement rare qu'en une semaine, chacun se lève quelqu'un. Donc ça devrait s'étaler sur 25 ans, ça dure...
Mais ça me gêne. Ça me gêne pas, mais moi je trouve que je trouve que quand la série a aucune continuité dans aucune de ses intrigues, c'est plus un sketch en fait, des petits sketchs de 20 minutes qui des fois me font rire et des fois me font moins rire. Et je trouvais que la série, dans cette deuxième saison, il y avait des épisodes qui étaient assez faiblards et les épisodes faiblards, je m'ennuyais parce qu'au final, il se passait vraiment rien qui m'intéressait.
Ouais.
Je pense pas de la continuité dans Happy Ending, ça change la qualité des épisodes ou pas.
Non, mais ça peut me donner un truc auquel me rapprocher dans les épisodes un peu faibles.
Quand il y a un truc qui est clairement gênant, enfin moi je sais qu'il y a quand quelque chose est clairement hors continuité, ça me gêne.
Comme dans American Horror Story ou
Horror Story.
Je pense toujours à ce film de double à American Story.
Un film de double.
Attends.
Je démissionne.
Alors, American machin X, là, le truc où en gros on t'explique que la prison c'est super parce que il y a que des hommes huilés, il y a que des hommes huilés avec qui tu peux avoir des relations.
Non, alors déjà American Horror Story c'est une ode à la beauté de Edward Norton et de Edward Furlong.
Oui, c'est ça en gros,
c'est un conte qui t'apprend la tolérance et qui te dit que la tolérance, une fois que tu es dans le chemin de la haine, c'est trop tard pour l'embrasser. Parce que à la fin, tu vas quand même te faire flinguer dans les toilettes.
Donc ça ne sert à rien.
D'accord, j'ai vu... Voilà, exactement. La tolérance, c'est inutile. Voilà.
Ah, d'accord.
Ok.
Tu vois l'utilité de ce film? Non, d'accord. Je l'ai vu quand j'avais 10 ans, j'ai une excuse.
Bah, moi aussi. Et Vampire Diaries, est-ce que c'est toujours... Bah, non, maintenant que Revenge, c'est la meilleure série du monde.
C'est la deuxième meilleure série du monde, je pense.
Ouais, moi j'adorais dans le dernier épisode Elena. J'ai trouvé qu'elle avait des cheveux trop jolis. Et franchement, j'adore le fait que Stéphane et que Damon couchent enfin ensemble. Ça, je trouve que c'est très osé, mais on l'attendait depuis le début de la série, alors... D'accord, en fait, je ne regarde pas Vampire Diaries. Donc je vais me retirer de la conversation.
Ça aussi, elle avait dit qu'elle le ferait.
C'est
désolé,
pas vrai.
Désolé,
j'avais pas dit. J'avais tellement pas dit. Il ment. On vous ment et on vous manipule.
C'est bien, ça avait pas l'air du tout répété. En plus, c'était dit avec beaucoup de naturel.
Mais je dis tout avec beaucoup de naturel. D'accord.
Mais
donc,
non, mais
parler de vos trucs avec des vampires.
Bon, c'est très bien, ma foi. Ils ont encore renouvelé.
Ouais, moi, ce que j'aime... Ce qui fonctionne quand même bien, c'est les nouveaux personnages. Ils arrivent quand même à introduire des méchants qui, dont on a eu l'impression qu'ils ont toujours fait partie du monde de Vampire Diaries. Là.
Est-ce qu'il y a des loups-garous? À part...
Ouais, il y a des loups-garous. Mais il y a des hybrides aussi. Il y a des hybrides.
Il y a des vampires loups-garous.
Oui, mais c'est avec le sang de la doppelganger ou je sais pas quoi.
Est-ce qu'il y a des zombies aussi?
Ah non, la saison prochaine, je pense.
Mais non, parce que les zombies et les vampires, c'est vraiment des choses très très différentes. Ça vient jamais dans les mêmes...
Démocrates, républicains, tout ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais eu des geeks qui avaient essayé de faire des théories là-dessus.
Ouais, j'en avais lu.
Et, mais je sais plus ce que je voulais dire, mais c'était un peu moins bien. Ce qui était un peu chiant, c'était le côté inversé. Stéphane est le méchant, ouais. Bidule est le gentil, où on est amoureux d'Elena. Et en gros... ce qui est quand même pas mal, c'est que Elena se rend compte que Damon, c'est pas l'homme de sa vie, parce qu'il la prend quand même pour une fille trop niaise et qu'il faut protéger. Et qu'Elena, c'est une femme vraiment indépendante. Bon, dans le dernier épisode, elle fait strictement n'importe quoi, vraiment la pauvre fille. Et effectivement, elle avait un peu besoin de protection, mais globalement, ça lui permet de se rendre compte qu'elle n'a pas besoin d'être maternée. Elle, ce qu'elle veut, c'est un homme.
Moderne, un homme qui la respecte.
Qui la respecte. On n'est pas crédible sur Vampire Diaries.
Non, c'est toujours difficile d'en parler de façon à... Non, mais c'est...
Non, mais ce qu'on peut dire... Ah si, attends. Ce qu'on peut dire, c'est que Vampire Diaries, c'est l'essence même du média série télé. C'est-à-dire qu'on est content de voir un épisode de Vampire Diaries. Non. On se pose pas 800 milliards de questions sur est-ce que ça va bien continuer? Est-ce qu'il y a un arc général de la saison qui va tout relier? Est-ce qu'ils vont répondre à des grandes questions? Est-ce que c'est vraiment le plaisir émotionnel de la série télé?
Vous vous rendez compte que depuis le début de cet épisode, on a parlé que de séries en disant qu'on n'attendait pas de voir, enfin qu'on attendait la suite, mais qu'on n'avait aucune attente particulière.
Mais oui, parce qu'on a confiance justement. C'est le principe même des séries télé. C'est la vision hebdomadaire. C'est les choses qui reviennent. Il y a un côté répétitif, mais qui fonctionne que si on a confiance. Et effectivement, depuis qu'il y a ces grandes séries qui ont été portées au nu et qui ont permis au format de série télé d'avoir une certaine légitimité. Maintenant, effectivement, on a l'impression qu'on est obligé de passer par ces espèces de grandes mythologies, par ces épisodes finaux qui vont réunir toutes les intrigues et qu'il aurait fallu que tout soit prévu depuis des milliers d'années en amont, etc. Or, c'est pas le cas puisque d'un point de vue de la production, c'est pas possible. Et donc, justement, Vampire Diaries ou Revenge, ce sont les exemples des séries qui font, enfin, qui savent utiliser la forme qu'elles ont, c'est-à-dire le support qui est la série télé, et ce sont pas de grands films qui s'étalent par chapitre. Et si The Wire avait réussi ça excellemment, chaque saison et chaque épisode, c'est vraiment un chapitre. Non, mais ce sont des chapitres d'histoire globale. C'est pas la nature, c'est pas l'essence même de la forme série télé.
Et c'est vrai que Vampire Diaries ou Revenge, moi je me dis, si la fin de saison est un peu nulle et décevante, je me dirais pas tout ça pour rien, j'ai vraiment perdu mon temps en regardant les 15-16 épisodes précédents. Parce que chaque épisode, finalement, est satisfaisant par lui-même, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines séries du Cap, qui parfois réussissent très très bien à tout boucler à la fin, et du coup on se dit, waouh, c'était vraiment génial, mais quand elles se foirent, on a vraiment perdu 12-13 heures de sa vie, notamment sur les séries Showtime.
Justify sur FX, la saison 2, est cohérente, chaque épisode est passionnant, chaque épisode a un rôle dans une intrigue globale vachement grande. Vraiment, tout est parfait, ils réussissent ce que peu de séries sont capables de faire. En saison 3, justement, comme ils ont voulu répéter la même chose, c'est-à-dire... ces épisodes dans un grand arc, sauf que ce coup-ci c'est moins réussi, donc on sent qu'il y a certains épisodes, ça peine, ça pousse, et on a l'impression que les personnages sont oubliés au profit de ce grand arc narratif. Or, l'intérêt, c'est pas pour fonctionner par opposition, genre Vampire Diaries, c'est l'esprit des séries télé, The Wire, c'est pas l'esprit des séries télé. Les deux cohabitent bien, simplement, il y en a un autre qui est beaucoup plus difficile à faire, qui peut pas fonctionner qui peut fonctionner que sur le câble, sur un petit nombre d'épisodes, sur un mode de production où on prévoit tout d'avance, on écrit tout d'avance, et que quand les séries des networks se lancent là-dedans, c'est un peu le syndrome Lost, quoi. C'est-à-dire que on attend tout ce qu'on attend, c'est qu'il y a quelque chose qui donne une raison, une légitimité de nous avoir fait des épisodes nuls à chier, de remplissage chiant, parce qu'à la fin il y aura la satisfaction de tout est lié, tout existe, et au final ça marche pas, ça fonctionne rarement.
Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu pareil dans The Good Wife, je trouve, c'est qu'il y a des arcs, mais en même temps, on n'a jamais l'impression qu'il y a un épisode qui est uniquement là pour faire avancer un truc et faire un truc qui sera bien dans 3 épisodes. Les épisodes sont là pour être bien chaque semaine, et ensuite, ils font avancer de temps en temps des intrigues un peu derrière. Et moi, je suis plus rassuré devant...
Spoilez pas The Good Wife, s'il vous plaît.
Non, mais on n'a pas besoin de spoiler pour...
Non.
Ça, mais c'est des épisodes qui indépendamment fonctionnent assez bien, et à la limite on pourrait avoir plaisir, je pense, à en re-regarder un à part dans quelques années sans tout revoir, ce que je pense qu'on ne peut pas vraiment faire sur Lost, parce qu'un épisode tout seul de Lost
bon, il y en a certains quand même, ceux qui se concentrent vraiment, genre celui Greatest Hits de Charlie.
Non, après c'est comme les soaps, je
pense. Ou bien Desmond et tout ça.
Regarder un épisode de Revenge tout seul, ça n'a pas d'intérêt.
À part, Revenge. Mais Revenge, ça n'a pas de pic de qualité, vraiment. Enfin, il n'y a aucun. Moi, Revenge, je vois la série comme un tout, mais il n'y a aucun épisode en particulier dont je pourrais reparler.
Et c'est ça vraiment qui me plaît dans la série, justement, c'est que c'est qualité égale et qu'à chaque fois, je suis content de l'avoir vu, quoi.
Ça me manque quand même un peu de savoir que Revenge, d'accord, c'est une série que je vois, que j'aimerais beaucoup, enfin que j'aime beaucoup.
Et effectivement,
mais
je pense pas qu'on pourra.
Envie de revenir dessus.
Et on pourra pas placer Revenge dans les 100 meilleurs moments, etc. Parce qu'il n'y a pas de choses terriblement marquantes qui ont fait que, ah là là, toute la série va changer, on a enfin su qui étaient les observateurs, ou je sais pas quoi. Même si pour le coup, dans Fringe, je trouve qu'ils ont géré ça vachement bien.
Mais cela dit, c'est pas l'ambition du tout de Revenge, je pense. Non. Donc, son ambition, c'était de durer 15 épisodes, bon, elle va durer un peu plus, mais...
Ouais, mais est-ce que c'est pas triste, ce manque d'ambition? Non,
en même temps, moi je trouve qu'il y a tellement de séries qui sont complètement écrasées par leur ambition de départ. Je préfère une série qui a comme ambition d'être divertissante et qui y arrive, et ce qui n'empêche pas à côté d'avoir d'autres séries qui sont beaucoup plus ambitieuses. Je dis ambition depuis 3 fois. Mais les séries faussement, les séries comme Heroes ou Lost qui veulent absolument faire quelque chose de révolutionnaire et qui n'y arrivent pas du tout, je trouve de plus en plus fréquent, et c'est particulièrement désagréable à regarder.
Ouais. Non, Heroes, la saison 1, j'avais aimé, c'est tout ce que j'ai vu de la série, donc... À part le gros pétard mouillé de la fin, je trouvais que c'était agréable à regarder. Et qu'il y avait des très bons épisodes. Heroes, c'est une série qu'on a pu placer dans le top 100 des meilleurs moments. Il y a eu quand même des moments marquants.
Mais tout comme Glee, il y a des moments très marquants parce que c'est rare d'avoir l'impression qu'on nous arrache les joncs quand on regarde la télé, tu vois. Donc c'est pas pour ça que...
Oui, mais il y a des trucs qui sont marquants parce que c'est bon, et il y a des trucs qui sont marquants parce que c'est mauvais.
Hey.
Un peu comme ce podcast.
Attendez, j'essaie de mettre la lumière. Hop. Mais si, allez, continue.
Oui, tout à fait.
Oui, alors, est-ce qu'on enchaîne? Alors, du coup, je ne regarde pas The Good Wife. Vous regardez tous les deux Modern Family. Oui. Je crois qu'il y en a un qui aime et un qui déteste. Et que vous vouliez parler des règles des personnages féminins. Donc, je vous laisse enchaîner là-dessus.
Je dirais que tu nous places trop en opposition, tu vois. Tu essaies de nous mettre à 2 opposés, un peu comme Revenge.
Mais en fait, est-ce que la différence d'âge entre vous deux peut pas expliquer, au fond, cette appréciation différente de la série? Est-ce que c'est pas une série un peu trop jeune pour toi, Jérôme, ou un peu trop mature pour toi, Chris?
C'est l'inverse, en fait, c'est lui qui aime la série et moi qui l'aime pas. D'accord.
Mais ouais, alors dire que Modern Family, c'est une série de vieux, c'est un peu réducteur, et en même temps, c'est pas complètement faux.
Bah oui, parce qu'il faut clairement que tu sois vieux et que tu sois plus au courant des nouvelles tendances pour aimer un épisode.
Je pense que les règles, c'est pas des choses qui qui cristallise vraiment l'opposition entre les jeunes et ceux qui sont encore jeunes, mais un peu moins.
Parce que toi, tu vois, à ton époque, c'était quelque chose de très handicapant. Maintenant, on peut quand même faire du cheval si on veut.
Bah, ça dépend. Attends, les règles, ça peut être hyper handicapant.
On peut faire du cheval, du roller. T'as pas vu les publicités?
Ouais, mais c'est sûr, ça peut faire très très mal au ventre. Et après, je sais pas.
Bon, bref. Parle-moi des douleurs menstruelles.
Non, mais je peux pas en parler puisque. Bah, si, parce que. T'es quand même pas obligé de subir tout pour pouvoir en parler, avoir un avis dessus.
C'est vrai, j'ai un avis sur la Shoah et pourtant.
Voilà. Donc. Celle-là n'était pas préparée, elle était vachement bien. Voilà. Non, et Modern Family, le truc.
Ouais, alors
qui nous oppose,
moi,
c'est qu'en gros, toi, t'as l'impression que c'est une série réactionnaire et caricaturale sur les femmes au foyer, hommes, machin.
Je trouve que dans Modern Family, tous les personnages sont hyper caricaturaux.
Bah, c'est quand même la base de la comédie. À la base, c'est de l'exagération du trait.
Je trouve qu'elles sont caricaturales d'une manière qui est vieillotte et très... ouais, limite dérangeante. Le gros gay, qui est vraiment le gros gay un peu attardé... le père de famille qui est le père de famille un peu attardé qui se comporte comme un gamin. Bah déjà le fait que je pense que le fait que la moitié du cast masculin adulte soit un cast masculin adulte qui se comporte comme un gamin est quand même un petit peu symptomatique du fait que ce soit pas vraiment quelque chose qui va chercher sa comédie très loin. Oui, là j'improvisais un peu ce que je raconte vu que Gégé était parti.
Non, mais te répondre...
Pour me répondre? Non, parce que je sais même plus ce que j'ai dit, donc vas-y, réponds-moi, rappelle-moi.
Je trouve que c'est pas aussi simple d'un point de vue de l'image que ça donne de la vision des créateurs qu'on... bon, bref, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que... Ouais, moi j'ai été un peu stressé, effectivement, quand j'ai vu l'épisode, le dernier épisode en date... où le début est marqué par le fait que les trois filles de la famille Dunphy ont leurs règles en même temps. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même écrit un truc dans ma scène pour dire à quel point Modern Family, c'était pas aussi marqué, aussi cliché, que ça allait un peu plus loin. Et là encore, ok, les filles ont leurs règles et elles sont un peu hystéro, tout ça, machin.
Un peu hystéro.
Elles sont beaucoup hystéro. Mais le truc est qu'à un moment donné, et donc le père, pour ceux qui ne regardent pas, le père Phil, elle est complètement désemparée. C'est oh mon Dieu, quand elles sont dans cet état-là, quand elles ont leurs règles, une femme, quand elle a ses règles, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire, il faut juste s'en aller et partir et les laisser dans leur coin parce qu'en gros, elles sont malades, quoi. Et alors, ça joue sur ah bah tiens, les filles sont hystériques quand elles ont leurs règles, ok, c'est pas super fin. Sauf que au final, ce que dit Claire, c'est que c'est encore plus énervant quand on est dans ce genre de situation d'être traité comme une débile hystérique et qui est quasiment malade et qui peut pas fonctionner correctement. Et une fois encore,
à c'est la Phil. Fin, une fois encore, à la fin, Phil se comporte comme un gamin. Et il sombre dans la caricature, dans le personnage qui ne sait pas se contrôler et qui est...
Ouais, mais le discours, c'était pas les filles, lorsqu'elles sont leurs règles, deviennent hystéro et les mecs en rigolent. C'est que ce serait pas mal si les hommes dépassaient un peu cette vision et se comportaient comme des gens matures avec les femmes quand le taux de leurs hormones varie dans leur organisme.
Ouais.
Après, je dis pas que tout est une réussite dans Modern Family et que Cam est pas un personnage insupportable. Il est un personnage insupportable.
Cam est un personnage insupportable. Sofia Vergara est un personnage insupportable.
Ouais.
Nani est un personnage insupportable.
Après, voilà. Enfin, moi, la série me fait rire et je la trouve pas aussi réactionnaire qu'on veut bien entendre, qu'on veut bien dire, enfin, que ces détracteurs...
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a rien de moderne dans cette série. Enfin, Modern Family, désolé, c'est juste un prétexte pour nous servir exactement les mêmes...
Mais clairement, enfin, c'est comme Cougar Town, j'ai l'impression que les titres, on s'en fout. Enfin, Modern Family, je pense qu'ils ont mis ça parce que, bon, en gros, il y en a qui étaient gays.
Beaucoup de gens la présentent comme une série ouverte d'esprit, blablabla.
Faut quand même reconnaître que, enfin, moi, j'ai vu que les deux premières saisons, mais t'as un couple, une famille recomposée qui est quand même effectivement, sa nouvelle femme qui est colombienne et qui a la moitié de son âge, elle est souvent utilisée comme un ressort comique, mais c'est pas non plus la caricature qu'on peut avoir habituellement de ce genre de couple où elle serait là uniquement pour l'argent à essayer de toucher l'héritage. Et on avait aussi effectivement la famille, enfin le couple des homos qui adoptent, ce qui finalement à l'époque à la télé c'était pas si courant que ça non plus.
À l'époque, il faut reconnaître.
Ben oui, mais
c'est quand même
la première fois
qu'on
a ça. C'est pas anodin, je trouve.
Ils adoptent un gamin, ils en adoptent un, ils vont en adopter un deuxième.
C'est quand même pas. Cette semaine dans Happy Endings. On a eu le personnage de Max qui disait qu'il voulait avoir des enfants.
Il y a une différence entre le dire et une différence entre le montrer chaque semaine, comme si c'était, enfin pas comme si c'était pas un problème justement de le montrer dans le quotidien.
Et en plus dans une série qui est ultra grand public, parce qu'effectivement Modern Family c'est pas la comédie la plus pointue qui soit, ça plaît à un public assez large, c'est pas forcément un humour qui est ultra exigeant, et du coup avoir ce genre d'intrigue dedans, je trouve ça finalement plutôt osé, et à mon avis quand ils ont lancé la série ça n'en est pas un hit.
À ce point de vue, est-ce que ça t'a pas fait rire quand même l'épisode où t'as le couple homo et puis le frère et puis le frère et la sœur là, merde,
qui sont au resto,
ils se bourrent la gueule et les gays veulent un deuxième enfant, et là t'as Claire qui a l'idée de génie, mais elle en est à sa troisième bouteille quoi, qui fait oh, ce qui pourrait être super c'est que je vous donne un œuf et comme ça ce serait quasiment un enfant. Tout le monde trouve ça génial, et le lendemain, tout le monde est horrifié, ils n'osent pas l'avouer les uns aux autres et tout. Ça, c'était quand même super
non,
drôle.
Non, j'ai pas trouvé ça drôle.
Pourquoi ?
Enfin, je sais pas, parce que
La manière dont c'est fait, c'est toi,
ça
pas...
Dont ça
mais l'idée quand même pas mal.
Je sais pas. Non, l'idée, pour moi, c'est... Non, je trouve que c'est du déjà-vu. Le côté, ouais, on est bourré, on propose un truc qui, sur le coup, paraît trop bien, mais qui, le lendemain, est hyper embarrassant, je sais pas, je suis à peu près sûre que Oh, I Met Your Mother l'a déjà fait.
Là, pour le coup, I Met Your Mother, je trouve que c'est une série qui est moins intéressante sur sur ce qu'elle dit en fait. C'est une série qui est très grand public, mais il n'y a pas grand chose derrière.
T'as dit que t'en étais aux deux premières saisons de Modern Family ?
Bah ouais.
T'as arrêté Modern Family ?
Ouais.
Voilà.
Ben non, mais j'ai arrêté parce qu'effectivement, je trouve pas ça ultra. C'est pas la comédie.
Non, mais après,
c'est une série qu'il faut arrêter.
Non, mais après, on discute de deux choses différentes. On discute soit de si ça nous fait rire ou ça nous fait pas rire.
Ah, moi, ça me faisait rire un épisode sur trois, donc j'ai arrêté. Mais la série m'a jamais.
Je pourrais. C'est pas une série drôle. C'est une série que tu trouves pas drôle. Moi, je trouve pas drôle Community un épisode sur deux, mais c'est pas grave.
Mais Community, c'est pas une série drôle. Enfin, c'est pas une série. C'est pas.
Cougar Town, c'est une série que je porte pas dans mon cœur et qui me fait pas vraiment beaucoup rire, même si les deux derniers épisodes, le deuxième épisode de la saison 3 m'a bien fait rire. Mais sinon, ça, on peut ne pas trouver les mêmes choses drôles. Et après, voilà, ça va influencer si on regarde ou pas la série. Et après, on peut dire que cette série est réactionnaire ou qu'elle n'est pas réactionnaire. Ça n'a pas rapport avec l'humour qu'il y a dans la série.
Bah, How I Met Your Mother, c'est quand même sur 5 hétérosexuels, bac plus 5, qui vivent dans une grande ville. Celle qui se fait traiter comme une étrangère en permanence, elle est canadienne. Enfin, c'est pas la série la plus...
Il y a aussi un chauffeur de taxi, Pakistanais.
Oui, qui était utilisé comme un ressort comique un petit peu facile.
Après, le background réactionnaire ou libéral, non, ou tout ça, c'est pas ça qui fait l'intérêt d'une série, mais après, on peut en parler.
Modern Family, c'est vraiment un côté qui me gêne profondément dans la série, c'est que j'ai l'impression qu'on rit vraiment aux dépens de gros traits de caractère des personnages qui sont de plus en plus poussifs, de plus en plus caricaturaux et de plus en plus limite insultants, je trouve.
Insultant pour qui ? Pour les femmes et pour les gays ?
J'ai trouvé ça insultant pour les femmes. Si tout à coup je fais mon coming out, je trouverais ça insultant pour les gays. Et si je décide que je suis d'apprendre l'espagnol, et ben je trouverais ça insultant pour les Mexicains. Je trouve que c'est... Bah,
surtout qu'elle est colombienne.
D'accord. Bah, la Colombie, c'est une partie du Mexique, non ?
Non, bah ouais, mais effectivement, je trouve ça surprenant qu'on arrête Modern Family parce qu'on trouve ça pas drôle, ça je comprends. Moi, Claire, à un moment donné, me gonflait énormément.
C'est laquelle, Claire ?
Claire, c'est la blonde.
Ah, d'accord.
Et le début de la moitié même. Ouais, ça fait une saison
moi,
et demie qui était un peu
début.
Poussive d'un point de vue de l'humour. Après, voilà, je comprends pas les accusations de côté réactionnaire ou d'exploitation de clichés.
Sachant que surtout que 80% des comédies sont 10 fois pires à ce niveau-là. Donc,
Two Broke Girls, ça te fait rire, les trucs racistes et tout ça. Qui sont... Alors, pourquoi dans Modern Family, ce serait gênant?
Parce que Modern Family se positionne comme une série au-dessus de ça.
Pas du tout.
Mais non, mais
si.
Pas du tout.
C'est Modern Family, on lui donne des Emmy et tout ça.
Mais attends,
Two Broke Girls, on ne la verra jamais nominée.
Oui, mais
parce
ça,
que
ça la réception
voilà.
est quand même différente. Si on
à
avait
la base, à la base, Modern Family, ça avait quand même, ça semblait quand même, je crois que sur la première saison et demie, ça semblait quand même avoir une certaine continuité, une certaine ambition. Au
mais
début,
je vois pas en quoi la continuité et l'ambition c'est lié.
Je trouve que depuis une saison, depuis le début de cette saison, en fait, je trouve que Modern Family joue uniquement sur les gros clichés, et elle se renferme sur elle-même. Il n'y a plus aucun personnage extérieur aux familles. Alors qu'avant, on avait par exemple Dylan qui était un peu extérieur. On voyait les personnages interagir entre eux en dehors de ce petit cercle, de ce noyau familial. Là, vraiment, je trouve que c'est une série qui s'est renfermée sur elle-même et qui joue uniquement à exploiter des clichés. Et à les exploiter mal.
Ouais, ah voilà. Mais on est arrivé au fait que moi je trouve que la série exploite de façon plutôt fine certains clichés, je dis pas que tout est réussi, et que j'ai essayé d'arrêter Modern Family il y a quelques épisodes, et que là j'ai pas de chance à chaque fois, je ris comme une baleine quoi. Donc,
est-ce que tu crois pas que c'est un petit peu le syndrome de Stockholm?
Quoi, je suis pris en otage par Modern Family?
Oui, tu essaies de lui trouver des qualités parce que tu as essayé de la quitter, et maintenant tu t'auto-persuades que en fait
que c'est bien.
Bien
et tout
ouais,
ça, et je cherche des arguments fallacieux pour
voilà,
justifier.
Exactement.
J'ai pas l'impression de fonctionner comme ça et
je crois que si.
Ah, la condescendance des gamines de 19 ans, c'est tout.
20 ans?
Oui, j'ai 20 ans,
j'ai eu 20 ans en mai dernier. Tu sais, 3 jours après toi.
Oui, c'est vrai. 3 jours après que j'ai eu 20 ans.
3 jours après que tu aies eu 40 ans.
Oh, c'est pas bien. Mais voilà, bon, bref, Modern Family, faut peut-être pas le coup de s'étriper, mais je trouve que c'est pas si réactionnaire que ça. Bon, après,
je trouve que si.
Voilà.
Mais je pense que t'as des attentes envers les séries qui sont pas... qui sont un peu surréalistes sur une série qui passe sur un network, qui fait une grande audience, et qu'à un moment, c'est vrai que tu peux trouver que des séries comme Mad Men, elles sont beaucoup plus intelligentes dans ce qu'elles te disent sur la condition féminine ou autre, mais ça touche quand même un public beaucoup plus restreint. Donc à un moment, quand tu t'adresses à une certaine frange de la population qui pense tout comme toi, c'est plus facile effectivement de faire des trucs causés que Modern Family, qui à mon avis est regardé par exemple par des gens qui ne sont pas spécialement... pour l'adoption par les gays, qui sont pas spécialement les gens les plus ouverts d'esprit de la Terre, et qui regardent ça, parce que finalement, ça les fait rire, que c'est accessible. Je dis pas que ça en fait une bonne série, mais je dis que c'est pas forcément... ça rend la démarche intéressante, en tout cas.
Oui, t'as raison, j'ai trop d'attentes. C'est l'histoire de ma vie, ça, j'ai trop d'attentes.
T'inquiète pas, t'as encore de nombreuses années
pour
les revoir à la baisse. Voilà. pour limiter
j'ai
tes espérances et tout ça.
Et ne plus rien attendre de la vie et des choses.
Non, enfin, tu ne seras même pas cynique, c'est t'attendre des toutes petites choses, quoi.
Genre,
dans ton courrier, t'as eu que des pubs, bah, t'es contente de pas avoir une grosse facture, quoi. Donc, c'est ta journée, elle est belle. Alors, Smash, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on s'en fout?
C'était les attentes qui ont été déçues.
Moi, je tiens à dire que j'ai trouvé ça nul dès le pilote et que visiblement, j'ai pas regardé la suite, mais j'avais une fois de plus raison de détester dans les 5 premières secondes une série qui a l'air quand même assez nullissime.
Les numéros musicaux sont magnifiques.
Non.
Si. Mais t'as regardé que le pilote!
Dans le pilote, j'ai pas trouvé les numéros musicaux
magnifiques. Non, la scène du baseball, là. C'était super.
Ouais, je suis d'accord. Bon. Et là, dans le dernier épisode, il y a eu une scène...
Excusez-moi, la scène de Christina Aguilera dans le pilote, ça va, quoi.
Christina
c'était
Aguilera.
Digne de Glee quand il chante You Are Beautiful. C'est une chanson de Christina Aguilera qui chante
si,
à la fin.
Quand elle fait l'audition, la brune.
Là, les deux. Et on fait un montage. Ouais. Excusez-moi, mais on aurait vu ça dans Glee, on aurait tous dit c'est de la merde. Et là, c'est dans une nouvelle série à Broadway et tout le monde a trouvé ça génial.
Oui, mais c'est parce que Glee,
oh,
c'est...
comment
c'est
tu
mal.
Nous accuses Oh là là.
Genre, on avait parti pris, genre...
Bon, toi,
après,
c'est
tu
sûr.
Vas nous dire...
Toi, c'est vrai.
Après, tu
toi,
vas nous dire vrai. Qu'on aimait HBO parce que c'est plus à la mode et qu'on n'aime pas AMC parce que c'est à la mode.
Mais tout à fait.
On n'est pas du tout ce genre de personne.
Parce que moi, j'aime The Walking Dead et je trouve que c'est vraiment une super série depuis 3 épisodes et que AMC mérite tout à fait sa réputation de meilleure chaîne de tous les temps.
Ah, moi, je désolée, crois que... j'ai décroché à partir du moment où t'as dit que The Walking Dead, c'était bien. Je vais entrer dans un autisme léger et je vais te laisser... faire tes trucs bizarres dans ton coin.
Non, mais Smash, ça a vraiment... Moi, je trouve que dès le pilote, on se dit, bon, bah, ils vont passer leur série à construire leur comédie musicale. Les personnages sont déjà assez caricaturaux. Enfin, sont tout de suite assez caricaturaux.
Ouais.
Et peut-être qu'ils seront développés après.
La caricature,
après,
c'est
mais...
pas la base de la comédie musicale. L'essence même de la comédie musicale. Et que et, tout est caricature.
Mais ça pouvait donner quelque chose de bien, mais je sais pas, je le sentais pas trop. Je trouve qu'il y avait un gros coup de mou dans le pilote. Il y a quand même d'énormes clichés, genre la pauvre fille qui vient de sa campagne. Ses parents veulent pas qu'elle devienne une star, mais elle a trop de talent. Bon, elle va quand même chez le réalisateur, enfin, je sais pas comment on appelle, le metteur en scène de la comédie musicale pour répéter à minuit et elle comprend pas qu'il essaye de coucher avec elle, donc elle fait sa cinquième couche. La seule qui pouvait m'intéresser, c'était la blonde qui est mauvaise, enfin, qui a moins
on
de
la
talent. Et c'était le seul personnage qui m'accrochait un tout petit peu parce que on te le présentait pas comme la personne la plus douée qui existe et qui va travailler sur une super comédie musicale.
Bah regarde la suite, franchement on regarde jusqu'à l'épisode 4 et puis tu pourras juger. Regardez tous jusqu'à l'épisode 4 parce qu'il y a un numéro musical qui était trop bien.
Ou est-ce qu'on peut regarder juste l'épisode juste le numéro musical sans regarder la série?
Oui,
sur Dailymotion.
Parce que moi en fait j'ai regardé le pilote, j'ai adoré au dernier degré, mais vraiment.
Et t'as été déçu par
ça. Et là c'est comme le syndrome, là je suis dans le syndrome Friday Night Lights, c'est-à-dire que la peur de la déception est tellement forte que comme il y a eu des micro-critiques sur l'épisode 2, je ne veux pas les entendre, ça n'existe pas, Smash est la meilleure série du monde, mais je ne la regarderai pas.
D'accord. Je comprends.
C'est comme ça que pour moi, Friday Night Lights n'a eu que des bonnes saisons. J'ai vu la 1, la 3, la 4, la 5.
La 4 la... Non, la 5, j'ai trouvé en dessous du reste. Donc on va pas revenir sur Friday Night Lights, sinon je vais me faire insulter.
Bah, pas du tout. T'as le droit. Ah bon, bah, qu'est-ce que t'as pas
regardé,
pu dans la.
J'ai regardé cet été en fait Friday Night Lights. J'avais regardé la saison 1 et arrêté au cours de la saison 2 et je me suis tout refait d'un seul coup. J'ai adoré. J'ai adoré la saison 4, je l'ai trouvée merveilleuse. Mais la saison 5, je sais pas, je crois que j'ai perdu un peu d'intérêt pour les personnages. Je me rappelle plus exactement des critiques que j'avais faites dessus, mais je sais que j'étais moins impliquée.
Moi, j'ai arrêté à la fin de la saison 1. Et je crois que j'ai eu raison, puisqu'apparemment la deuxième était pourrie.
Ouais.
Mais j'ai pas eu le courage de reprendre après.
Ouais, la saison 2 était pourrie au dernier degré. C'est ça qui m'a fait arrêter. Au début.
Mais Smash, non, c'est pas bien.
On n'a pas parlé de Shameless, on voulait dire trois trucs sur Shameless. Bah si, parce que...
Oui, tout à fait. Mais comment est-ce qu'on présente ça?
Bah Shameless, on peut présenter la série pour si jamais il y a des gens qui la connaissent pas. C'est l'adaptation d'une des meilleures séries anglaises qui en est à son 1000e épisode. Et l'adaptation... américaine a débuté sur HBO il y a un an et demi, avec une première saison qui était vraiment calquée sur la série anglaise, où en gros ils reprenaient tous les dialogues, toutes les intrigues, tous les personnages, qui, comme les épisodes américains durent 10 minutes de plus, ils rajoutaient des choses qui n'étaient pas forcément très subtiles, mais au final, la force de la version américaine, ou en tout cas le fait que ce n'est pas un désastre... si attendu vient des acteurs, en particulier de...
Amy Rossum.
Voilà. Et alors la saison 2, qui est en cours de diffusion en ce moment, s'éloigne complètement des intrigues anglaises, ce qui lui donne une véritable personnalité. Et... Vas-y Iris, continue.
Moi, j'ai pas vu la version anglaise, donc je suis vraiment partie dans une totale découverte. Et ouais, c'est une de mes séries préférées en ce moment. Vraiment parce que je trouve que tous les acteurs sont bons.
Ah non.
Si.
Non, celle qui joue Karen, elle
Ah
est
non,
nulle.
oui, d'accord, celle qui joue Karen. Tous les acteurs principaux sont bons. Toute la famille, je trouve que toute la famille Gallagher, c'est ça?
Ouais, Gallagher.
Tous les Gallagher, je les trouve. Bon, certains se démarquent clairement plus que les autres, genre Lip qui est juste. Qui me bluffe chaque semaine parce que je trouve qu'il. À la base, il était parti d'un personnage un peu qui faisait le beau gosse, on va dire. Enfin, c'était un petit peu un personnage pas si intéressant que ça. Et maintenant, je trouve que l'acteur en a fait vraiment quelque chose ouais, je trouve qu'il lui donne de la sensibilité et de la. Je trouve que même qu'il rend supportable son intrigue avec Karen, alors que Karen joue pas très bien, et même, je dirais même plus. Ouais, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Pas au degré de Amy Rossum. C'est quoi le nom de son personnage d'ailleurs?
C'est pas comme si j'avais vu la version anglaise et la version américaine. Ouais, elle est vachement bien. C'est la première des filles. Mince. Debbie, c'est la petite.
Lui, sa petite.
Ian, c'est le gay.
Lip.
Lip. Fiona.
Fiona, voilà. Fiona, je trouve que Fiona est juste bluffante. L'actrice, elle est magnifique. C'est pas une raison pour l'aimer, mais si, comme un peu, elle est magnifique. Elle joue extrêmement, extrêmement bien. Et son personnage, je trouve que son personnage qui se débat vraiment pour garder. Je trouve que son personnage arrive à rester à la fois un personnage cookie d'or, on va dire,
Un
comme
personnage quoi?
cookie d'or, comme Buffy, elle dit I'm not baked yet, I'm cookie dough. C'est de la
Je
pâte à
connais pas.
cookies. C'est un
Ah?
personnage qui est encore en train de se construire,
Oh.
alors que son personnage aurait pu clairement sombrer du côté maman.
Mmh.
Elle arrive à osciller entre une maturité où elle contrôle, où elle gère vraiment sa famille, et des moments où elle est plus jeune, où elle se construit d'une manière qui est, je trouve, absolument. Elle arrive à rendre ça crédible et à pas sombrer dans une espèce de moment où on aurait l'impression de voir clairement le jeu d'acteur. Elle arrive à lier tout ça ensemble.
Elle la joue pas mère courage.
Voilà, exactement. Alors que qu'on pourrait avoir l'impression de voir deux personnages différents, tellement ce qu'elle fait paraît. Enfin, pour
Après, ça
beaucoup,
vient
ça
aussi de
paraît
la qualité de
invraisemblable.
l'écriture, puisque c'était la même
Oui.
chose, c'est la même chose dans la version anglaise, enfin, ce
Ouais.
personnage-là. Mais l'actrice qui la joue aussi dans la version anglaise est exceptionnelle. Ouais, moi, je suis plutôt. J'étais un peu déçu par le début de la saison 2, puisque content quand même que les intrigues s'éloignent de la version anglaise, je les trouvais un peu plus poussives. J'avais l'impression que là, tout le monde était chacun dans son coin, il avait sa petite vie comme dans Desperate Housewives saison 2. Mais effectivement, il y a un certain attachement et voilà, je peux pas te dire autre chose sans spoiler, puisque sinon je vais raconter la version anglaise, les mix d'intrigues de version anglaise qu'ils sont en train de faire, etc. Il y a moi, j'ai juste un énorme problème, c'est Karen. J'arrive pas, je trouve l'actrice très mauvaise, très mal choisie parce qu'elle n'a pas le physique de l'emploi, c'est-à-dire qu'elle est censée être une white trash. Au final, c'est vraiment la petite gamine blonde, toute jolie, toute proprette, toute
Mais c'est
gentille.
parce que toi, tu te rappelles de la version anglaise. Moi, Karen, je la prends comme ce qu'elle est, à savoir une fille toute proprette, qui a été, enfin, qui s'est un peu auto-sabotée parce que son père, parce que tout ça. Pour moi, c'est plus une fille qui s'auto-sabote, alors qu'à la base, elle a quand même un fond sûrement d'innocence et de faiblesse. Je pense que c'est plus une fille tellement sensible qu'elle s'en auto-sabote.
Ouais, mais là, alors, je pense que si je ressens pas ça, c'est peut-être à cause du jeu de l'actrice qui. Moi, là, j'arrive pas à dépasser le fait qu'elle débite ses lignes de dialogue sans aucune passion, sans. Enfin, elle incarne vraiment pas le personnage. Enfin, c'est vraiment. Et puis en plus, par rapport à tous les autres qui sont vraiment bons, elle fait vraiment tâche. Et moi, elle me gêne beaucoup dans la série. Mais sinon, ouais, C'est plutôt chouette, Shameless.
Plutôt chouette. On a dit que Revenge était la meilleure série du monde et tu dis que Shameless, c'est plutôt chouette.
Oui, Shameless, la version américaine, est plutôt chouette et Revenge est la meilleure série du moment aux États-Unis.
D'accord, alors je trouve, personnellement, je me démarque de ce podcast français et j'exprime mon point de vue éclairé de Suisse. Et je trouve que je parle au nom de la Suisse, là, eux, ils parlent au nom de la France, je parle au nom de la Suisse, la meilleure série du monde, c'est Shameless. En ce moment, sur le câble.
Ah non, c'est diffusé sur Channel 4, Shameless.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc, on est perdu ça et on parle de séries américaines.
Et qu'est-ce que vous attendez? On va conclure bientôt. Quelle série, même si Tigrou et moi, on est vraiment le genre de personnes qui n'attendons plus rien et qui nous satisfaisons vraiment de ce qu'on nous présente. Et si on n'a pas été déçus, ben on est content. Mais on l'avait pas déjà fait, si peut-être. Mais, et vous avez peut-être dit Game of Thrones et tout ça.
Ouais.
Genre les séries
qui... Sérieusement, t'as dit ça?
Ben ouais.
D'accord.
Je regarde tous les trailers et tout, ça a l'air super bien.
D'accord.
The Winter
is coming.
Sérieusement, si j'entends encore cette phrase, je suis heureuse qu'on soit enfin arrivé au printemps parce que le nombre de fois depuis octobre où j'ai entendu des gens me dire qu'il faisait froid et winter is coming, mon dieu, je pense que.
Ils sont cool, tes amis, ils regardent Game of Thrones, moi les miens ils comprennent rien quand je leur fais des références.
C'est pour ça qu'il faut que tu sois jeune et geek.
Jeune? Jeune et geek?
Jeune et geek? Je vais sortir mon site spin-off de Perdusa qui s'appellera Jeune Geek.
Mais il y a Mad Men aussi qui va.
Ah là là, mais ouais, là, question espérance, faut que je me calme parce que.
Je croyais que tu n'attendais plus rien de la vie.
Bah, c'est ça le souci.
Mad Men,
j'ai l'impression que depuis que ça existe, chaque saison est meilleure que la précédente. Et mais là, ça fait quoi? Ça fait un an et demi, deux ans qu'on n'a pas eu d'épisode.
Au moins, ouais.
Oh là là. Est-ce qu'il est possible que la saison 5 de Mad Men soit encore meilleure que la 4? C'est probablement, mais bon. Mais effectivement, moi je pense que Mad Men c'est la série que j'attends le plus. Je sais pas du tout quand est-ce que ça doit diffuser au mois de mars, non?
Je sais pas.
Ça doit pas commencer, non?
Je sais pas.
Tu sais pas?
Je regarde pas Mad Men. Je suis la brebis galeuse de la rédaction.
Il y a, comment ça s'appelle, The Killing qui va recommencer bientôt. Je crois que je serais obligé de regarder un peu le début.
Pour avoir la résolution de l'intrigue.
Mais ils ont viré la créatrice ou pas finalement?
Non, elle continue et tout.
Parce que c'est genre la personne la plus détestée dans le monde des séries aux États-Unis, non, maintenant?
Ben, pas tant que ça, parce qu'au final, The Killing a eu un succès d'audience pas exceptionnel mais pas honteux.
Ouais, mais ça a été super critiqué.
Enfin, moi, critiqué par 14 personnes sur internet.
Non, les seules réactions que j'ai entendues par rapport à The Killing, c'est ouais, regarde cette série si tu veux te faire sodomiser et pas connaître la résolution à la fin de la saison. Enfin, que c'était une série
qui... Je comprends pas ta phrase et je comprends pas le sens négatif que tu mets dans le terme sodomiser.
D'accord. Pardon, je vais reformuler ça.
Non.
D'accord, alors te faire violer, c'est un bon synonyme pour se demi-violer?
Parce que,
je sais pas, c'est si un bon synonyme. Je sais pas si on peut comparer une série télé pas très bonne au viol, mais je suis peut-être un peu vieux et réel.
Ouais,
voilà, c'est très vieux et réel.
J'aime Modern Family après tout, mais...
Non, donc, The Killing, oui, non, pour moi, je l'ai lu en ces termes.
Non, mais effectivement, alors clairement, on ne peut pas avoir du tout confiance dans la suite de la série.
Je croyais qu'il ne fallait pas attendre quoi que ce soit des suites, qu'il ne fallait pas se projeter dans l'avenir.
Ah, mais justement, pour permettre cet état d'esprit, il faut être en confiance. Donc, si on est en confiance, on n'a pas besoin de se projeter, on se dit, il va y avoir un nouvel épisode de Revenge, c'est ce que. Enfin voilà, je sais que ça va
et
être bien.
Et donc, tu ne fais pas confiance à The King?
Non, mais moi j'ai envie de voir comment ils vont s'en sortir. La créatrice a dit qu'il y aurait une résolution à la fin de la saison 2.
Et qu'elle ne savait pas encore ce que c'était.
Ce qui est terrible, là, c'est que pour le coup, c'est encore un remake de série. La résolution, elle existe dans la version danoise. Hein?
Non, rien, continuons. Bouclons ce podcast.
Alors, pour vous expliquer, je ne sais pas, quand j'ai dit danoise, Iris s'est mis à hurler sans le son un peu. C'était un peu un Jean du Jardin qu'il avait possédé.
Non, rien, c'est bon.
Explique-nous.
J'ai besoin d'aller aux toilettes.
D'accord, mais c'est que tu peux aller aux toilettes. Moi, j'étais...
Pendant le podcast ?
Bah, en même temps, on mange.
On est dans quoi ? On est dans le générique de Shameless, là ?
On continue à vivre.
Bah, vas-y, alors, parlez.
Mais voilà, si moi, voilà. J'attends The Killing et Mad Men.
Moi, j'attends Girl. Girls ?
C'est quoi, Girls ?
C'est quoi ?
La série de Judd Apatow.
Judd Apatow ?
Judd Apatow.
Ah, celui, ah, oui. Celui, ah, ce grand, grand créateur.
Celui qui a fait Freaks and Geeks.
Hein, qui a fait Knock Up aussi, ou je sais pas quoi, là où, comme d'habitude, c'est un moche qui se tape une bombasse.
Cette regarde n'est pas moche.
Ah, c'est un type qui n'a pas le physique habituel hollywoodien qui se tape une bombe atomique. Et en gros.
Oui, mais le problème avec cette bombe atomique, c'est que c'est Catherine Hegel.
Non, mais peu importe, c'est dans le principe des films ou des séries où en gros les geeks sont moches. Et ils fantasment sur des connasses parce qu'elles ont des gros seins. Moi, ça me stresse toujours. Je sais pas pourquoi je m'emballe sur cette connerie. C'est pas grave.
Ben moi, j'adore ça parce que déjà, Seth Rogen, je le trouve pas moche. Au contraire, je le trouve très attirant.
Ah, bah, effectivement, si Max, ce qui fantasme sur Max de Modern Family. Non, mais c'est bien.
Oui, mais ben, Funny or Die, ils avaient fait une chanson qui s'appelait In an Apatow World, qui était justement sur le fait que dans le monde de Judd Apatow. Les moches entre guillemets se tapaient des filles des bombasses, et c'est vrai que c'est le cas.
Ça c'est pas le monde films. C'est pas le monde de Judd Apatow, hein, c'est le monde à peu près d'Hollywood et du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que les moches se tapent des bombes et c'est normal, quoi. Et les geeks s'étonnent, je supporte pas ce cliché qu'on trouve et qui est accepté par tous les gens qui vont avoir de grandes critiques sur le côté réactionnaire de certains trucs, mais il est normal que des moches, entre guillemets physiquement, hein, que des garçons moches puissent fantasmer sur des nanas canons, parce que de toute façon, c'est normal, ce sont des garçons, et puis de toute façon, dans 15 ans, comme c'est des geeks, c'est eux qui auront l'argent, donc les filles, elles seront bien contentes d'être avec des mecs riches. C'est normal, c'est comme dans Z aussi, c'est normal que Seth se tape Rachel Bilson. Parce que c'est un garçon et qu'elle, c'est une fille.
Non. Et
c'est normal, c'est la base. Bah, si.
Je suis pas d'accord. J'ai pas de contre-exemple à te donner, mais...
Mais c'est surtout acceptable.
C'est pas considéré comme un truc...
En fait, c'est accepté dans une série télé d'avoir un personnage masculin qui est pas canon. Par contre, avoir un personnage féminin pas canon... faut vraiment que ce soit ultra justifié par le scénario et que
voilà,
ce
soit le seul exemple qui me vient en tête, c'est Glee, où il y avait la nana.
Que des moches dans Glee.
Non, mais où il y avait la nana qui était
obèse
et qui sortait avec Puck. En
gros. Mais Puck, il est moche.
Ouais, mais d'un point de vue critère, tu vois, hollywoodien, machin.
Ben, Penny, elle est grosse aussi. Enfin, elle est un peu enrobée aussi, Penny. Non, elle est un... Ouais, je sais pas, avant tu m'as dit qu'elle était grosse.
Alors, d'un point de vue des canons hollywoodiens.
Voilà, enfin. Mais en même temps, tu trouves Max obèse, donc.
Mais non.
Je m'étonne de rien.
Non, mais clairement, et c'est quand même accepté. C'est quand même accepté. Pareil, non, mais The Big Bang Theory. Les deux gars là, comment ils s'appellent ? Il y en a bien un des deux ou les deux qui vont sortir avec la blonde. La blonde, elle est débile, mais elle est blonde. Donc. Et les deux autres sont là, oh là là, trop bien, j'ai envie de sortir avec elle. Pourquoi ils ont envie de sortir avec elle ? Parce qu'elle est bonne, c'est tout. Et on est censé avoir de l'empathie pour ces personnages-là, parce que franchement, c'est des garçons, les gens ont été méchants à l'école avec eux, etc. Et eux, tout ce qu'ils ont envie, c'est d'être aimés de la bonasse.
Je peux trouver des exemples de... Non, mais ça, c'est normal de vouloir quelque chose qui a toujours été placé comme inaccessible pour toi. Pour moi, ça me paraît normal. Parce que t'as envie...
Ce qui est affligeant, c'est ce dont ils ont envie, c'est des bonasses sans cerveau.
Non, parce qu'on voit que Seth et Anna, ils ont eu un passage où Seth, il a choisi Anna plutôt que Summer. Bon, ça n'a pas été le cas à
mais
la
Mais quoi
fin.
Qu'il arrive, son crush, c'était...
C'était Summer.
Pourquoi? Parce que c'était une bonasse.
Non, c'est parce que quand elle était toute petite, et qu'ils étaient à l'école maternelle, elle avait lu un poème dans lequel elle expliqua qu'elle rêvait d'être une sirène.
Ouais, bah, à mon avis, elle aurait été un gros ton. il se serait pas rappelé que, oh mon Dieu, ça alors, elle sait lire, elle est belle,
non,
et en plus, elle sait lire.
C'est parce qu'elle écrivait un truc qui lui a donné l'impression qu'elle avait beaucoup plus de profondeur que ce qu'elle en avait, et au final, il s'est avéré que c'était pas elle qui avait écrit le poème et qu'elle l'avait piqué à une... comment elle s'appelait, Autumn?
Ah, Tom Rees,
ouais. Oui, voilà. Comment elle s'appelait? Taylor. Qu'elle avait piqué son poème à Taylor. Et, mais la raison, il le dit dans un épisode, que la raison pour laquelle il a été autant sur elle, fou amoureux, c'était à cause de ce poème. Il lui dit, ça fait partie de notre mythologie.
Ok, mais ça c'est les explications après coup. Par contre, la base de la série dans le pilote, on a Seth qui est censé être un geek pas beau.
Ouais.
Ce qu'il est clairement pas, mais bon, qui fantasme sur la nana qui est méchante, qui a pas de cerveau,
ouais.
Tout ça parce qu'elle est, elle a un physique attirant.
Oui, mais est-ce que t'as jamais fantasmé sur quelqu'un juste parce qu'il était canon?
Si, mais simplement, il y a pas l'autre côté, il y a pas l'autre pendant qui est, on crée pas des séries entières sur des filles moches.
C'est ce que Girls va faire de Jon Apatow. C'est ce que, d'après les trailers, c'est la meuf qui est pas spécialement belle, pas spécialement talentueuse. Enfin, c'est un personnage de Jon Apatow.
C'est-à-dire, en gros, c'est qui est casté comme fille?
Et qui va se taper un mec qui a une carrière, un physique, qui est...
Non, je crois que c'est une totale inconnue. Non, je crois que ça va justement être... Moi, franchement, je fais confiance à Jon Apatow là-dessus, parce que je sais que... Bon, c'était pas trop le cas dans Bridesmaid parce qu'il appliquait un type d'humour masculin au caste féminin et que bref. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un podcast sur les séries TV, mais je pense qu'il peut faire une bonne comédie avec une femme dans le rôle principal, une femme pas belle, même moche, avec un peu de poids en trop et tout ça, et arriver à lui faire avoir des intrigues intéressante et pas forcément, je pense pas qu'il va se la faire.
Mais est-ce qu'elle va fantasmer sur le joueur de foot
Bah, je pense.
Sur le joueur de foot sans cerveau.
Surtout, est-ce qu'elle va se le taper parce qu'à un moment il va réaliser qu'en fait, ah bah elle est gentille et intelligente et du coup.
Non, mais je pense que dans la réalité, les filles ont plus tendance à avoir pitié des geeks que l'inverse. Enfin.
Oui, mais en quoi c'est acceptable? En quoi c'est on peut se dire oh écoutez c'est comme ça, c'est dans la nature des choses, les filles
elles veulent faire des enfants à un moment, donc
non mais c'est même pas une question de faire des enfants, c'est simplement que je pense que la plupart des mecs s'arrêtent plus facilement au physique que les filles.
Mais est-ce que c'est pas justement un système qui est entretenu par les médias qui, depuis que t'es tout petit, te disent que quand t'es un mec, t'es censé t'arrêter au physique et que c'est plutôt... t'es pas censé avoir vraiment d'autres critères et que c'est plutôt aux filles qui ont un beau physique de creuser un peu pour voir que toi, derrière, t'es plutôt sympa et intelligent et tu vas devenir riche, donc...
Et en gros, les seuls qui sont responsables de juger les gens sur leur physique, ce sont donc les bombasses un peu débiles. Parce qu'elles sont coupables de quoi? De pas dépasser le physique pas agréable des geeks qui les regardent et qui fantasment sur eux.
Donc... Non, mais oui, je suis d'accord. Enfin, dans le fond, c'est pas quelque chose qui me rend joyeuse. Hein. Je suis pas contente que les geeks... Bah, d'ailleurs, c'est résumé par une ligne dans Modern Family, au moment où la fille, elle dit si... Si les mecs stupides s'intéressent aux filles stupides et que les mecs intelligents s'intéressent aux filles stupides, qu'est-ce qui reste aux filles intelligentes? Ben, principalement des chats.
Bah oui.
Bah oui, c'est exactement ça, mais c'est comme ça que fonctionne la réalité souvent.
Mais non.
En tant que fille intelligente, non. Je peux te dire que si.
Mais non, mais ça c'est un cliché qui est entretenu par les médias. Mais qui, je pense, d'une n'est pas vrai et qui serait encore moins vrai si c'était pas répété en boucle, en permanence, parce que...
Donc, tu penses que si on présentait, si on mettait que... Si on, tout à coup, toutes les séries se mettaient à représenter des hommes qui s'intéressent à des petites moches à lunettes, d'un seul coup, en une génération, les mecs s'intéresseraient...
Non, c'est même pas
mais
ça, non
mais...
Je
pense que ça reflèterait, en fait, la réalité, tout simplement. Enfin, parce que les séries, c'est un média qui est quand même qui ça te donne une vision qui est censée, elles sont censées se passer la plupart dans notre monde, et elles t'en donnent toujours une vision un petit peu déformée. Alors on peut aussi parler du concept de la fausse moche dans les séries télé, où en général la fille qui est censée jouer une moche fait la couverture de elle en étant à peine retouchée. Bon, voilà. Et t'as aussi ce problème sur les relations qui effectivement te montre en permanence une notion comme quoi, bah, quand t'es un mec hétéro, t'es quand même plutôt censé être attiré par des bombasses, et si elle est intelligente, c'est mieux, et encore, mais tu peux pas être attiré par une moche. C'est presque un constat d'échec, tu vois. Et finalement, l'ascension sociale pour un mec moche et intelligent, c'est pas de se trouver une fille qui est super intelligente comme lui, c'est de se trouver une bonasse. Et si, en plus, elle sait lire, alors là, c'est le jackpot.
Oui, parce que les séries ont été écrites par des gens frustrés qui réalisaient leur espèce. Oui, je pense que...
Non, c'est parce qu'il y a quand même une acceptation générale par un certain public. Sérieusement,
dans The Big Bang Theory, quand machin à lunettes, le petit frisé à lunettes, quand il se tape enfin Penny, est-ce que franchement, il n'y a personne qui a senti que derrière son ordinateur, c'est qui? C'est Chuck Lorre, non? Est-ce que personne n'a senti que Chuck Lorre était là? Ah oui, putain, j'espère que cette connasse qui m'a foutu un vent au lycée regarde cet épisode. Je suis désolée, je pense qu'il y a une grosse part de...
Non, en quoi c'est bien? Je comprends pas.
Non,
en quoi c'est acceptable?
Je dis pas que c'est bien, je dis que ça explique en partie les raisons pour lesquelles c'est aussi représenté.
Mais alors, t'avais un discours super dur sur Modern Family, sur la représentation des femmes, etc. Or, dans ce que tu dis, c'est que c'est un peu la réalité aussi, hein. Les hommes, bah voilà, les femmes, elles se la jouent un peu hystéro, et puis elles sont à la maison, etc. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la société dans laquelle on vit. Pourquoi ce côté les geeks peuvent fantasmer et ne sont à la recherche que de bonasses, même si c'est un peu réducteur? Pourquoi est-ce que ce cliché-là est relativement accepté par tout le monde?
Moi je veux dire, pourquoi il est relativement accepté par moi, c'est parce que je m'identifie plus au geek qu'à la fille. Et donc, je m'identifie plus à la personne qui veut avoir quelque chose d'inaccessible, et je comprends qu'on puisse vouloir quelque chose uniquement parce que c'est quelque chose qui, d'après les attentes de la société, nous est refusé.
Mais le pendant féminin n'existe pas, c'est-à-dire que c'est très rare les filles qui sont pas des bombes, qui sont représentées dans les séries télé, c'est quand même très rare qu'on construise des séries entières sur ce type de personnage.
Dans Everwood, tu te rappelles, il y avait je sais plus qui, celle qui maintenant joue April dans...
Non, mais là, ouais, mais
clairement. Elle était clairement pas super, et elle sortait quand même avec Bright, qui était censé être le beau gosse de service.
Oui, et ça, c'est un exemple, c'est la langue française, c'est l'exception qui confirme la règle.
Ça va peut-être être un peu ça.
Mais au-delà de ça, effectivement, c'est quand même bizarre que ce soit accepté. Moi, c'est un cliché que je comprends pas.
Je suis d'accord que ça devrait pas être aussi accepté, mais je pense que ça s'explique, enfin, que ça se comprend, que l'existence de ce cliché s'explique par les personnes qui écrivent les séries TV.
Qui sont essentiellement des mecs.
Qui sont essentiellement des mecs, voilà.
Et quand c'est des femmes...
Oui, mais alors ça, ça c'est l'explication. C'est l'explication au fait que ce soit à l'écran. Quelle explication tu as pour le fait qu'il n'y ait pas un déclenchement de protestation sur Internet ou machin?
Ah, mais il y en a des protestations à ça. Et ce déclenchement, je pense qu'il va commencer à se faire au travers de différentes scénaristes qui commencent à arriver. Je pense que Diablo Cody, elle peut commencer à faire ça au cinéma, et je pense que ça va arriver gentiment dans les séries télé. Je pense que c'est quelque chose, il faut laisser l'évolution venir. Et je pense que c'est potentiellement ce que Girl de Jon Apatow va faire. Et je crois que ça arrive en avril.
Sur quelle chaîne?
HBO, ça fera. Ça fera.
Ah, et ben, on regardera ça avec curiosité.
Voilà. Et ben écoutez, à la prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour les plus courageux.
Et
à bientôt.
À bientôt.